On va prendre un dernier personnage. Les caractéristiques que je vous ai présentées sont celles qui sont propres à ce personnage-là. Un homme authentique, c'est-à-dire vrai. Vrai, sur qui on peut compter vraiment. Un homme sage. Un homme qui ne se contente pas de parler et de croire, mais qui pose des actes. C'est ça, cet homme dont on va parler ce matin. Cet homme s'appelle Jacques. Prions. Seigneur, merci pour ta parole que nous allons ouvrir maintenant. Merci pour le fait que nous pouvons exploiter plusieurs facettes de la parole. On peut lire un livre biblique, un personnage, un lieu, des faits, des récits. Et toutes ces choses qui sont dans la parole sont là pour notre édification, sont là pour nous enseigner, sont là pour nous interpeller, nous aider à grandir encore et encore avec toi. Ce matin, nous voulons que ce partage que nous allons faire soit vraiment bénéfique pour chacun et chacune et que tout cela contribue à l'avancement de ton royaume dans cette église, dans cette ville, dans ce pays, dans cette génération, au nom de Jésus. Amen. Donc, nous allons parler de Jacques ce matin. Nous n'allons pas parler de l'apôtre Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée. On en a parlé la fois passée. Mais nous allons parler de Jacques, celui qu'on appelle le frère du Seigneur, le frère de Jésus. Alors, c'est l'auteur de l'épître que nous connaissons, qui s'appelle l'épître de Jacques. Alors, ce Jacques est l'occasion pour nous de parler des choses intéressantes, et notamment d'un grand personnage du Nouveau Testament, mais un personnage discret. Pourtant, on a des preuves qu'il a joué un très grand rôle. C'était un homme très important en son temps, donc au premier siècle après Jésus-Christ, juste après l'ascension de Jésus vers le ciel, et quelques années plus tard, c'est lui véritablement qui va être le grand patron de l'église de Jérusalem. C'est un homme qui est important dans l'histoire de l'église. Et pourtant, il s'est fait occulter progressivement dans l'histoire. C'est un homme dont l'histoire, la position a été source de polémiques, beaucoup de polémiques. C'est un homme pourtant, un homme, comme je vous l'ai dit, authentique, c'est-à-dire vrai. Vrai dans toute sa façon de croire et de vivre. Un homme authentique, c'est-à-dire un homme cohérent avec ce en quoi il croit profondément. Un homme authentique dans le sens qu'il est juste, juste avec lui-même. Nous allons prendre d'abord quelques textes pour entrer dans le sujet. Galates chapitre 1, verset 1. Non, chapitre 1, 18 à 19. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Céphas, donc ici, il s'agit de l'apôtre Paul, dans le livre des Galates, qui parle de son ministère et qui explique dans les péripéties de son ministère, il a dû aller se référer à Jérusalem. Et donc là, il va aller faire la connaissance de Céphas. Qui connaît qui est Céphas? Pierre, merci. Alors, donc c'est Pierre. Alors, je demeurai 15 jours chez lui, mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Donc, quand je vous dis que c'est le frère du Seigneur, je ne suis pas en train d'inventer une histoire. C'est biblique, c'est reconnu. En cette époque-là, il était reconnu comme tel, il était reconnu comme le frère de Jésus. Deuxième verset, Marc chapitre 6, du verset 1 au verset 1 à 6. Jésus partit de là et s'est rendu dans sa patrie sous-entendu la Galilée, puisque il est d'origine judéenne, donc il est de Bethléem, mais leur lieu de résidence, là où il a grandi, c'est dans la province de Galilée, particulièrement à Nazareth. Donc, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient, « D'où lui viennent ces choses ? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée ? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains ? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques ?» Vous voyez ? De Jos, de Jude et de Simon. Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous ? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé. Hein? On s'est arrêté à quoi, nous ? À quel verset ? 6, hein, voilà. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Ce texte montre que non seulement il va travailler dans le ministère, mais déjà du vivant de Jésus. Alors que Jésus est encore sur la terre, Jacques est identifié comme un des frères de Jésus. Dernier texte qui reste en rapport avec celui qu'on vient de lire, Matthieu chapitre 13, versets 55 à 58. N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses ? Il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Donc, c'est Matthieu et c'est Marc qui rapportent les faits. Ça montre à quel point ces choses sont importantes et véridiques. Si deux auteurs estiment important d'exprimer cette réalité. Il s'agit donc de Jacques, l'auteur de l'épître qui porte aussi son nom et donc qui est reconnu, qui est connu comme le frère de Jésus. Et vous voyez aussi que il n'est pas le seul frère. Il y a d'autres enfants, d'autres frères. Il y a Jude, il y a Simon, il y a Joseph, il y a José, etc. Il y a d'autres frères à lui aussi qui sont aussi là et qui sont connus. Donc, ce texte nous dit que Jésus avait des frères et des sœurs nés de ses parents, Marie et Joseph. Mais la tradition chrétienne catholique a occulté ce personnage, comme je vous l'ai dit, parce que, quelque part, Jacques, s'il a bien existé, s'il a joué un rôle important, eh bien, il pose un problème pour l'Église catholique. Pour la simple raison que il y a deux sujets de polémique que Jacques provoque de la part de l'Église catholique. D'une part, l'Église catholique avait opté pour le dogme de l'Immaculée Conception. Vous savez, c'est quoi ce dogme-là ? L'Immaculée Conception, c'est le dogme selon lequel Marie est restée vierge toute sa vie. Et donc, si elle est restée vierge, ça veut dire qu'elle n'a jamais eu d'enfant. Donc, Jacques n'est pas son fils. Donc, Jacques n'est pas le frère de Jésus. Comprenez ? Ça, c'est la première polémique. Et je vous prie de croire, je me suis mis dedans pour essayer de comprendre toute cette discussion. Même entre catholiques, ça chauffe. Parce qu'ils ne sont pas tous d'accord, et alors il y a des arguments. Et alors, malheureusement, à cause de ça, on sort de la Bible et on rentre dans les traditions historiques et machin comme ça. Et donc, on sort vraiment du contexte strictement biblique. La deuxième raison, c'est que s'il y a eu aussi polémique autour de la personne de Jacques, c'est parce que, souvenez-vous, je viens de le dire, Jacques a été le premier pasteur, le premier responsable reconnu de l'église de Jérusalem. Or, l'église de Jérusalem, c'était l'église mère. C'est d'elle qu'est partie la mission vers les autres nations. Toutes les églises qui ont été créées, implantées par la suite, eh ben, elles ont toutes comme référence l'église de Jérusalem. C'est là que c'était leur église mère. C'était l'église qui était celle qui donnait l'impulsion pour le travail et qui reconnaissait les ministères de ceux qui allaient notamment vers ces églises pour les implanter. C'est d'ailleurs à ce titre-là que Paul est remonté à Jérusalem deux fois pour pouvoir discuter, faire valoir ce titre qu'il a de pouvoir aller comme apôtre auprès des païens. Mais si maintenant Jacques devient le premier personnage et que la tradition retient que c'est le premier évêque, donc c'est l'évêque de tous les évêques, c'est le tout premier dans l'histoire, pour la tradition catholique, ça pose un problème. Parce qu'alors Pierre, il est quoi alors lui? Hein? Donc, on préfère occulter Jacques pour que Pierre soit plus en vue. Enfin, je ferme la parenthèse, je ne suis pas un polémique, donc je ferme la parenthèse. Jacques, donc, est véritablement celui qui va, dans la vie de Jésus, il va vraiment celui qui va contester sa messianité durant sa vie. C'est quelqu'un qui ne va pas croire à ce que Jésus fait. Il ne va pas croire, lui et ses frères et ses sœurs, bien sûr, ils ne vont pas croire que Jacques est véritablement le Messie, celui qui est vraiment envoyé par Dieu. Ils vont avoir beaucoup de mal à encaisser ça. Donc Jésus va être un sujet de problème pour eux, peut-être de gêne dans la société, puisque voilà, un grand frère qui est occupé à faire des histoires comme ça, ça ne va rien à ça. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer dans la vie de Jacques? Il y a une révolution qui va avoir lieu. Alors que il est parti sur l'idée que non, mon frère, il est occupé à faire des c'est n'importe quoi, il va se passer quelque chose avec la résurrection. Lors de la résurrection de Jésus, Jésus va apparaître aussi à Jacques. 1 Corinthiens 13, nous allons lire du verset 4 au verset 7. Oh, c'est ça en fait. Tu sais que je me suis trompé là, 1 Corinthiens 15. Nous sommes dans l'amour ici, hein. L'amour qui est patient. Oui, je veux l'amour. Il y a deux mariés ici, deux jeunes mariés. Ça doit être chouette de lire ce texte-là pour vous, hein. Mais pour nous autres ici, pour le texte, pour le message, on va lire plutôt 1 Corinthiens 15, nous. Hein. Voilà, regardez, 1 Corinthiens 15, verset 4 à 7. Oh, ah oui, t'as coupé la tête de quelque chose là, mais c'est pas grave. Qu'il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Donc, c'est Paul qui rappelle l'Évangile et qui rappelle que dans les bases de l'Évangile, il y a une certitude, Christ est ressuscité. Ok? Il est mort à la croix, mais il est ressuscité le troisième jour. Il a été enseveli. Ah, merci mon ami. Mais ce garçon, il est fin. Hein? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, verset 7, il est apparu à Jacques et à tous les apôtres. La tradition biblique retient que ça, ça a été la révolution dans la vie de Jacques. C'est là qu'il a reconnu qu'il n'avait, ce n'était pas simplement son frère, c'était le Messie, c'était le Fils de Dieu, c'était l'envoyé de Dieu. Et ça changeait complètement la vie de Jacques. Ça transformait complètement sa manière d'aborder la vie. Et assez rapidement, Jacques va vraiment prendre de l'ampleur, va devenir de plus en plus un conducteur de l'église de Jérusalem, et il va de plus en plus prendre son rôle dans l'église. Quelques versets qui nous le montrent. À Galates chapitre 2, le verset 1 à 10. 14 ans après, je montais, ça c'est encore l'apôtre Paul, hein, qui est remonté une deuxième fois à Jérusalem. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Avec l'intention de nous asservir, nous ne leur cédâmes pas un seul instant, nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Verset 6. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas, Dieu ne fait point de favoritisme. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Donc, les plus considérés, vous allez voir c'est qui. Au contraire, voyant que l'évangile avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et ayant reconnu la grâce qui m'a été faite, qui m'a été accordée, regardez, Jacques, Céphas, donc Pierre, et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allions, nous, vers les païens, eux, vers les circoncis. Et puis, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Jacques, Céphas et Jean, qui sont considérés comme des colonnes. J'ai des problèmes avec Jean, hein, quand c'est pas Jean-Baptiste, c'est... qui sont considérés comme des colonnes, c'est-à-dire, c'est les responsables, les gens, les références, les autorités de l'Église. Vous voyez? Je voulais juste donner ce texte pour montrer la position de Pierre, de Jacques. Acte chapitre 2, le verset 12 à 17, dans chapitre 12, verset 17, Pierre, Pierre, leur ayant fait signe de la main de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Vous voyez? On se réfère à Jacques. Jacques est un peu comme celui qui donne le feu vert pour que le travail ait lieu. Comme le responsable qui est là pour donner le feu vert. Vous avez vu avec l'apôtre Paul, il a voulu que son ministère soit reconnu. Il a dit, afin de ne pas avoir couru en vain, je veux avoir le visa des responsables qui sont reconnus par le Seigneur comme étant ceux devant qui j'ai des comptes à rendre. Et c'est eux à qui je m'adresse. Dernier texte dans ce sens-là aussi, Actes chapitre 15, versets 13 à 22. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté le regard sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je viendrai, je releverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherche le Seigneur. Afin que toutes les nations sur lesquelles mon nom est invoqué, dit le Seigneur, sous lequel mon nom est invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses et à qui elles sont connues de toute éternité. Il y a quelque chose que j'ai oublié. Enfin bref. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas des difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Alors, il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'église de choisir parmi eux, d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude appelé Barsabbas et Silas, homme considéré entre les frères. Juste texte pour souligner non seulement la position de Jacques, mais aussi son autorité. C'est lui qui termine les débats. C'est lui qui dit ce qu'il faut faire. C'est lui qui lance les choses. À travers donc ce texte, je voulais juste souligner ces éléments-là. C'est vraiment la référence dans l'Église. C'est aussi quelqu'un qui a une grande influence. Et notamment ici, vous allez voir, vous avez vu, en ce qui concerne le travail missionnaire, il va avoir une grande influence. Pourquoi ? Parce que finalement, la démarche de Paul était d'aller rechercher le soutien missionnaire de la part des responsables de l'Église de Jérusalem. Et c'est vraiment Jacques qui va lui donner vraiment le soutien discret mais efficace. Quelques traits de personnalité se dégagent de cet homme remarquable. Vous avez remarqué que Jacques est un homme juste. Il est juste dans le sens que il écoute ce qui est dit et il essaye de trouver la norme qui est la meilleure. C'est un homme qui est ancré dans la parole de Dieu. Même si il est vrai qu'il a sa base à lui dans l'Ancien Testament. C'est un juif chrétien. On le sent, on le voit. C'est un homme sage et conciliant. Dans le débat entre Pierre, parce que c'est vrai qu'on aurait pu étoffer plus les choses pour vous expliquer qu'en fait, sur fond de la démarche de Pierre vers l'église de Jérusalem, il y avait aussi un contentieux entre Pierre et Paul. Pierre et Paul. Voilà. Il y avait un contentieux autour de la question de, est-ce que les païens doivent se plier aux coutumes juives, et puis la question aussi de l'attitude ambivalente de Pierre à la maison, dans la maison de Corneille. Enfin, je reviens pas sur ça parce que c'est d'autres débats. Mais disons qu'il y avait, là le fond du problème qui était là, qui existait. Mais donc, Jacques va se montrer très conciliant. Il va rencontrer les deux positions et il va proposer une ligne de conduite qui va permettre aux deux hommes, mais aussi à toute l'Église, à la fois les païens, mais aussi les juifs, de pouvoir travailler ensemble pour la gloire de Dieu. C'était vraiment important qu'en ce moment-là, un tel homme soit à la direction de l'Église, pour pouvoir gérer ce genre de confrontation entre deux géants, Paul et Pierre. C'est vrai que c'est un homme vraiment converti au christianisme, même si les pratiques judaïques sont très importantes pour lui, même si la pratique est judaïque. Et son attachement aux œuvres de la foi va justement faire dire à ses détracteurs, donc aux gens qui sont contre lui, et notamment, vous avez compris, dans la tradition catholique, vous savez que même Luther, j'ouvre une parenthèse, même Luther au début n'aimait pas beaucoup l'épître de Jacques et n'avait pas beaucoup de considération pour cet épître-là d'ailleurs. Eh bien, ses détracteurs vont croire, parce qu'il est attaché aux œuvres, que Jacques est contre l'apôtre Paul. Parce que l'apôtre Paul prône le salut par la foi. Vous savez ça. Nous sommes sauvés par la foi. Eh bien, on a voulu faire dire que Jacques prônait plutôt le salut par les œuvres. Qu'il faut agir, qu'il faut poser des actes. C'est comme ça qu'on est sauvé. Mais pourtant, c'est tout à fait faux. Comme Paul, Jacques croit aussi au salut par la foi et non par les œuvres. Comme Paul, Jacques prône que le salut qui s'obtient par la foi doit se manifester dans les œuvres. Les œuvres sont le fruit de la conversion. Comme Jésus disait, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère? Produisez des actes qui montrent, qui sont les fruits de votre repentance. Quand je suis sauvé, eh bien je pose des actes qui témoignent que je suis sauvé. Quand je suis né de nouveau, que j'ai changé, que ma vie a été changée, eh bien, je produis les actes, j'agis de manière à ce que dans ma vie, on voit bien qu'il y a eu un changement, qu'il y a le Seigneur maintenant dans ma vie. Jacques est surnommé en son temps, à son époque, il est surnommé Jacques le Juste. À la fois parce que c'est un homme justifié qui a trouvé grâce en Jésus-Christ, mais aussi parce que c'est un homme qui a un témoignage incroyable à son époque. C'est un homme qui est très, très, très attaché qui est engagé à la cause des pauvres. Il va exposer souvent sa vie pour aider les pauvres. Je ne sais pas si vous réalisez le contexte de son époque. Nous sommes vers l'an 30, entre l'an 30 et l'an 50, 60, parce qu'il est mort en 60, après Jésus-Christ. C'est un contexte de persécution. L'Église chrétienne, donc la foi chrétienne, a commencé à se faire connaître. Et les Juifs et les Romains les persécutent. Donc, les Juifs qui croient en Dieu, qui croient au message de Jésus-Christ, sont persécutés, ils n'ont pas de boulot. Ils ne sont pas considérés dans la société, ils n'ont accès à rien. Vous cherchez un logement, vous ne pouvez pas avoir un logement si vous êtes un chrétien. Vous cherchez du travail, vous ne pouvez pas avoir du travail si vous êtes un chrétien. Et donc, il y a une accumulation des pauvres, tous ceux qui croient et qui sont devenus, ils sont complètement pauvres. Et lui s'est engagé véritablement pour les aider, pour les entourer, pour travailler avec eux. Il a aussi une très très grande réputation, une bonne réputation auprès de la population en général par sa sagesse. Les gens l'apprécient beaucoup. Et vous voyez, c'est un homme qui tient beaucoup à Israël. C'est un patriote. Il aime son pays, il aime sa nation. Et donc c'est un homme qui est considéré. Mais malheureusement, vers l'année 62 à peu près, eh bien, il va mourir. Il va mourir brutalement. Il va être lapidé. Il va être lapidé lors d'une émeute fomentée par le souverain sacrificateur de cette époque-là, qui ne l'aimait pas parce qu'il prêchait Jésus. Eh bien, il va fomenter une émeute et durant cette émeute, il va être lapidé jusqu'à ce qu'il soit mort. Et donc, il fait partie aussi des martyrs qui sont morts pour la cause du Seigneur. Il reste donc un illustre inconnu pour la tradition chrétienne occidentale, qui est dominée par le catholicisme, mais il est connu, apprécié énormément dans la tradition chrétienne orientale. Là, il est vraiment, vraiment, vraiment à sa place. Alors, j'ai juste terminé pour notre ami Jacques. Quelle exhortation la vie de Jacques nous laisse-t-elle aujourd'hui? Jacques, sa vie nous appelle à une vie authentique avec Dieu. Une vie chrétienne authentique. C'est quoi l'authenticité? L'authenticité, c'est le caractère de ce qui est juste, qui est vrai. Qui est vrai pas seulement dans la proclamation, mais qui est vrai dans la réalité. C'est la cohérence entre ce que je dis, ce que je pense et ce que je vis. C'est le vrai. C'est le vrai. Jacques nous invite à être des chrétiens qui sont vrais. Nous ne disons pas les choses que nous ne faisons pas. Nous ne sommes pas toujours ce que nous disons que nous sommes. Mais nous blaguions un peu avec Quentin, qui est revenu aujourd'hui des vacances et qui me disait, ne crois pas que tout le temps que j'ai été absent, je n'ai pas continué à lire ma Bible, à prier. Alors, on a blagué avec lui en disant, mais oui, c'est évident, on n'est pas chrétien qu'à l'église. On est chrétien partout, tous les jours, 24 heures sur 24, même dans sa douche. On est chrétien. Et on doit être vrai dans tout ce que nous sommes. Première exhortation. Deuxième exhortation, je crois que Jacques est très bien placé à côté de Salomon pour nous inviter à la sagesse. Pour nous inviter à vivre dans la sagesse. S'il est considéré comme juste, c'est pas seulement parce qu'il est sauvé, mais c'est aussi parce que c'est un homme sage, un homme de conciliation. C'est un homme qui recherche la paix, la conciliation. Et regardez, il le dit lui-même dans son épître. Jacques 3, 18 à 13 à 18, qu'est-ce qu'il dit? Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Nous devons parfois réfléchir devant ces choses-là, ces réalités-là. Verset 15. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Elle est terrestre, charnelle, diabolique. Ah, matière à réflexion. Car là où il y a le zèle, un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Mes amis, les disputes. Le zèle amer, c'est l'envie de travailler pour Dieu, mais à son propre compte. Pour que les gens vous vantent, les gens disent « Ouais, il est beau, il est parfait, il fait ça très très bien, etc. » Le zèle amer, c'est quand je le fais pour moi et pas pour Dieu, dans un esprit de sacrifice. Non pas dans un esprit de sacrifice, mais dans la volonté que les gens sachent. Regardez la sagesse. La sagesse d'en haut, elle est premièrement pure, c'est-à-dire sainte. Elle est motivée par la sainteté. Ensuite, pacifique. Elle recherche la paix, ok? Elle est là pour fonctionner à la faveur de la paix. Modérée, c'est-à-dire loin des extrémistes, loin des extrémismes, loin des excès. Elle est conciliante, c'est-à-dire elle cherche toujours le point d'entente, les points de conciliation, d'entente. Elle est pleine de miséricorde. C'est pas une sagesse dure. Elle est là pour compatir à la souffrance des autres, la partager, la vivre. Elle est pleine de miséricorde et de bons fruits. C'est-à-dire que les résultats de cette sagesse, c'est des bonnes choses. Elle est exempte de duplicité. Duplicité, c'est être double. Et d'hypocrisie. Littéralement, vous savez que l'hypocrisie vient d'un mot qui signifie qu'on porte un masque. Mais du temps dans l'Antiquité, dans la tradition grecque, quand on porte un masque, c'était pour jouer une pièce. C'est pour faire la comédie, jouer un rôle. C'était pas ton rôle à toi. D'ailleurs, quand tu mettais ton masque, c'était bien pour dire « je joue un rôle ». C'est pas moi, c'est juste que je joue un rôle. Ben, l'hypocrisie, c'est ça. C'est prendre un masque et jouer un rôle qui n'est pas le nôtre. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Voilà un homme qui disait quelque chose qui ressemblait à sa vie. Il était bien placé pour le dire et pour encourager. Troisième chose, l'attachement à poser les œuvres qui témoignent notre conversion. Rechercher à ce que ma foi, ma conversion, ne s'arrête pas à dire « je suis converti ». Mais je fais ce que je veux de ma vie, comme je veux. Voilà. Mais plutôt rechercher véritablement à ce que ma conversion produise des fruits. Soit visible, soit connue, soit manifeste. Que les gens puissent dire, cette personne-là ne peut pas manquer d'être chrétienne. Parce que quand je pense à la Bible et je vois ce que cette personne a fait, je dis waouh, il y a vraiment véritablement un lien entre les deux. Voilà, trois petites choses que je pense que le personnage de Jacques nous invite à regarder de près, peut-être à demander à Dieu. N'est-ce pas que Jacques dit lui-même que si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu sans douter. Et il dit que Dieu va la donner. Trois choses. Une vie chrétienne authentique. Seigneur, fais que je sois vrai avec moi-même et avec les autres, avec mon Église. Deuxième chose. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse. Une sagesse d'en haut, conciliante, pure, exempte de duplicité, etc. Seigneur, troisième chose, fais que ma conversion soit traduite dans des œuvres, dans des actions que je pose, qui témoignent que je suis converti. Pas pour faire de la publicité, pas pour faire du pharisianisme, c'est-à-dire montrer aux gens, ouais, moi je suis converti les gars, admirez-moi, je suis un vrai chrétien. À la rigueur, à ce moment-là, on peut t'appeler même pas chrétien, on va te dire un mot que j'aime bien dire avec les jeunes, mais je ne vais pas vous dire ici, qui ressemble fort au mot chrétien. Bon, enfin bref. Donc, mais, à la rigueur, on pourrait dire ça, mais Seigneur, aide-moi à poser des actes qui témoignent de ma conversion chaque jour de ma vie.